Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est un choc frontal. La Maison-Blanche a expliqué qu'elle refusait toute collaboration dans l'enquête du Congrès dans le cadre de la procédure de destitution lancée par les démocrates de la Chambre contre Donald Trump. Malgré tout, la procédure continue avec des auditions de responsables de l'administration cette semaine. L'impeachment et l'affaire ukrainienne qui l'a déclenchée sont devenus les sujets majeurs de la vie politique américaine depuis deux semaines. Leur impact sur la campagne électorale pour la présidentielle de 2020, mais aussi dans chaque camp, républicains et démocrates s'annoncent énormes, sans qu'il soit encore bien facile de le mesurer. Destitution, quel impact politique ? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Christine Zumello, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et spécialiste de politique américaine. Et Jérémy Guez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à HEC et spécialiste de la vie politique américaine également. Avant de rentrer dans le détail, on va essayer de comprendre comment cette procédure rarissime, il faut quand même le préciser, est ressentie dans l'opinion américaine. Une procédure de destitution, c'est grave. Il y a désormais quelques jours de recul. Cette procédure, elle est globalement acceptée par l'opinion. Christine Zumello.
Alors la procédure, en fait, elle suscite des effets contradictoires un petit peu dans l'opinion. Il y a à la fois une base, un socle très très solide qui reste quand même solidaire avec Donald Trump et son soutien ne s'effrite pas vraiment. Alors en même temps, depuis le 25 septembre, donc depuis fin septembre, l'opinion a quand même changé un tout petit peu de camp et soutient malgré tout l'action de la Chambre. Donc de Nancy Pelosi, qui est la grande sorcière, selon Donald Trump, pour cette destitution.
Alors il y a deux sorciers, puisqu'elle mène, paraît-il, une chasse aux sorcières, c'est ce qu'il dit également. Jérémy Guez, est-ce qu'il y a une méfiance ou un soutien, selon vous, pour cette procédure ?
Il y a effectivement deux effets contradictoires, absolument. Je pense qu'en fait, le soutien pour la procédure, tel qu'on est en train de le voir dans un certain nombre de sondages, c'est cette idée de dire que c'est la consolidation, en fait, de la base démocrate qui a toujours eu une méfiance innée vers Donald Trump. Mais effectivement, au sein du clan républicain, parce que c'est devenu un monde tribal, c'est devenu une véritable tribu, on a l'impression que le chef est attaqué, et si le chef est attaqué, il faut le défendre. Et je me pose une question, c'est que finalement, toute cette conversation autour de l'impeachment, ça peut être aussi vu comme un cri de guerre pour le Parti républicain, c'est un cri de ralliement en disant, vous voyez, vous m'avez élu parce que je ne faisais pas partie de l'establishment, et c'est cette même establishment qui essaye de m'assassiner politiquement. Donc il est temps que nous nous mobilisions.
Alors, Christine Zumello, au sein de chaque camp, effectivement, il y a un impact. On va peut-être donc commencer, puisque vous l'avez fait tous les deux, par le camp républicain. Il se resserre, comme c'est clairement le but affiché de Donald Trump, à mobiliser son électorat derrière lui. Où est-ce qu'il commence à y avoir des doutes ?
Alors c'est vrai que tous les yeux sont un petit peu rivés vers le Sénat, qui est contrôlé par les républicains, et donc on commence à faire un petit peu des analyses pour savoir combien de sénateurs républicains vont peut-être lâcher Donald Trump. Alors il y en a peut-être une quinzaine qui sont un petit peu tangents, mais il en faudrait 20. Pour pouvoir donner une chance à la destitution. Et en même temps, on peut peut-être se demander, c'est vraiment une question que je pose, est-ce que ce n'est pas non plus une opportunité pour le Parti républicain, qu'il ne dit pas, bien sûr, d'une certaine manière, peut-être de se débarrasser de Donald Trump.
Une purge, c'est ce que vous êtes en train de décrire ?
Je n'ai pas utilisé ce mot.
C'est
mais
moi qui l'utilise.
Voilà, c'est-à-dire ouvrir la campagne des primaires qui démarre au début du printemps prochain, en ayant peut-être un autre candidat que Donald Trump.
Oui, Jérémy Guez, qu'est-ce que vous pensez de cette analyse ?
Alors, je suis assez d'accord. Il y a une autre manière, en fait, de retourner le problème. Pour pouvoir destituer Donald Trump, il faut la voix de 67 sénateurs. Ce qui veut dire que tant qu'il y a 34 sénateurs républicains qui se sentent beaucoup trop vulnérables politiquement, s'ils votaient la destitution, pardonnez-moi, ils seraient grillés politiquement et terminés. Tant qu'il y en a 34, au moins 34, cette destitution est impossible. Vos confrères d'Axios, le journal américain en ligne, en ont dénombré 36 qui étaient politiquement vulnérables en terre de Trump. Et donc je pense que Donald Trump, effectivement, oui, cette volonté de purge, ça, à mon avis, elle a traversé l'esprit d'un certain nombre de responsables républicains. Mais tant que ces 36 au moins 36 sénateurs républicains se sentent trop vulnérables, Donald Trump considère qu'il a un véritable pare-feu, que la destitution est littéralement impossible.
Alors, je ne sais pas si on va les lister les uns après les autres, ceux qui doutent, hein, mais il y a des parlementaires républicains comme Mitt Romney, sénateur de l'Utah, qui ne cachent pas leur malaise, qui l'ont exprimé, clairement. D'autres qui essaient manifestement d'échapper aux questions sur le sujet. Il y a quand même un petit quelque chose, on sent quelque chose, Christine Jumel.
Oui, et puis je voudrais peut-être faire machine arrière un tout petit peu sur d'autres événements qui ont précédé cette destitution, qui font un peu effet boule de neige. L'avocat personnel de Donald Trump qui a été auditionné au Congrès.
Rudy Giuliani.
Alors ça, c'était Michael Cohen.
Michael Cohen.
En février dernier.
Le premier, celui de l'enquête russe. Voilà.
On avait précédemment, il y a juste un an, en septembre 2018, les auditions pour la confirmation de Brett Kavanaugh, donc le candidat de Donald Trump pour la Cour suprême. Donc il y avait été deux événements extrêmement difficiles, houleux au Congrès. Et donc il y a là cette nouvelle affaire, je pense qu'on ne peut pas vraiment parler d'une affaire de destitution de Donald Trump, qui refuse en bloc, fidèle à lui-même. Je crois que ça pose vraiment la question de la fatigue, une espèce de fatigue face à cette espèce de violence politique qui s'exprime et qui force aussi les démocrates à réagir. Et on se posait aussi la question du manque de réaction, de la mollesse de réaction des démocrates. Et donc là, il y a une offensive très forte qui est menée par les démocrates et des sénateurs tels que Mitt Romney, qui en effet fait partie du Sérail, qui évidemment s'oppose à Trump, qui a toujours été considéré comme un trublion, en fait, pour les républicains.
Jérémy Guez, il y a même, pas forcément sur cette question de l'impeachment, mais on entend par exemple Lindsey Graham, qui est un très proche de Donald Trump, le critiquer ouvertement sur sa décision de laisser la Turquie frapper le nord de la Syrie et donc les Kurdes. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de libération de la parole chez les républicains depuis quelque temps?
C'est-à-dire que face à ce qui est vécu comme une véritable menace, en tout cas une source de perplexité face à l'action de Donald Trump, ça très certainement il y a une libération de la parole. À tous les événements que vous avez cités, effectivement, on peut rajouter le plus récent et le plus tragique en date, c'est effectivement cette décision de laisser la Turquie lui donner carte blanche pour intervenir en Syrie. Des républicains qui se rendent bien compte, comme Lindsey Graham d'ailleurs en tête, alliés du président, qui se rendent bien compte que face finalement à tout ce que les Kurdes ont fait et face à la menace grandissante de la reconstitution de l'État islamique dans la région avec Daesh, ça, il y a une véritable question sur les effets de long terme. Et quand on est républicain, quand on se dit faucon, quand on se dit protecteur de l'État américain, c'est quelque chose avec lequel on a beaucoup de difficultés à vivre.
Est-ce que, alors je continue ma parenthèse, Christine Jumello, est-ce que le fait que Donald Trump ait décidé de laisser tomber ses alliés Kurdes, est-ce que ça fait dans la tête des républicains quelque chose, en effet, sur la confiance qu'ils ont dans le président?
Et je pense que c'est ce que vous dites est tout à fait à relier à à la cause de la destitution en cours, qui est c'est-à-dire ce coup de fil quand même entre le président américain avec le président ukrainien. Donc une perception dans l'opinion américaine qu'il y a peut-être une trahison par rapport à une puissance étrangère. Donc ça, c'est des éléments qui, en matière de politique intérieure ensuite, sont saisis de façon vraiment extrêmement sensible.
Oui, ça ramène à ma première question. Ouais. De plus en plus, cette procédure, elle est acceptée par l'opinion. Il y a même des républicains qui commencent à se dire... je parle non pas des élus, mais de l'opinion qui commence à se dire ça va peut-être un petit peu trop loin, là.
Je crois qu'il y a deux courants très forts, qui est celui d'une part de « Ah, mais c'est encore un complot des médias », ça c'est quelque chose qui est très très fort dans l'électorat de Trump, donc qui continue à le soutenir, et puis aussi peut-être le début de quand même une question, c'est-à-dire peut-être y a-t-il du vrai. Je voudrais faire aussi peut-être, mais je laisse la parole à Jérémy Guez, mais une parenthèse et une parallèle avec ce qui s'était passé avec Hillary Clinton, où la situation est renversée en 2016, où en fait c'était... Trump qui accusait Hillary Clinton en fait d'avoir peut-être trahi et qu'il faudrait la mettre en prison, hein, c'était le mot qu'il utilisait.
Jérémy Guez, Christine Jumello a fait mon travail, c'est à vous.
On comprend d'où vient cette partie, c'est un complot des médias. C'est les républicains qui ont élu Donald Trump, et d'ailleurs il n'y avait pas forcément que les républicains historiques, au nom de « mettons fin à ces interventions coûteuses à l'étranger ». Donc pour cela, la Turquie, enfin bon bref, tout ce qui s'est passé avec la Turquie, de toute façon, ça nous ne regarde pas. Mais il y a aussi toute cette partie de l'opinion publique et des républicains qui se disent, avec Donald Trump, est-ce qu'on a vraiment la défense des intérêts des États-Unis ? Quand il est au coup de fil, ce coup de fil avec l'Ukraine, qu'il y ait pression en disant faites cela sinon on vous retient l'aide militaire. Ça c'est des choses qui arrivent tout le temps en diplomatie. Mais le problème c'était qu'est-ce qui était en jeu ? Ce n'était pas les intérêts des Américains ou l'intérêt des États-Unis, c'était l'intérêt politique propre de Donald Trump qui cherchait à mettre à mal son principal rival démocrate, à savoir Joe Biden. Mmh. Et cette capacité de Donald Trump à mettre ses propres intérêts avant l'intérêt des États-Unis, eh bien, ça donne le hockey à un certain nombre de républicains.
Alors, justement, la stratégie présidentielle de s'opposer très fortement à la procédure, de refuser toute collaboration, quitte à contester le rôle constitutionnel de contrôle du Parlement, de la Chambre et du Sénat, est-ce que ça marche. Est-ce que ça, c'est bien accepté par l'opinion républicaine, notamment Christine Zumel ?
Alors, je crois qu'on va le savoir de façon plus claire dans les jours qui viennent, mais je crois que ça met vraiment en avant peut-être un point de rupture pour les républicains aujourd'hui, qui a commencé
il y a... Parce que tous les Américains, républicains, démocrates inclus, sont très attachés à leur constitution.
Absolument, hein, voilà. Absolument. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de messages qui circulent aujourd'hui sur Trump va-t-il un jour quitter la Maison-Blanche, hein ? Va-t-il accepter de partir par des voies normales, disons, légales, hein ? Donc, c'est vraiment une espèce de peur qui s'installe. Mais je pense aussi que le Parti républicain, qui est quand même le parti du président, malgré tout, est en sérieuse difficulté depuis 10 ans hein, maintenant, c'est-à-dire depuis l'arrivée du Tea Party, qui était une faction au sein du Parti républicain qui l'a beaucoup mis en danger, qui a fissuré le parti, et d'une certaine manière, Trump s'est engouffré dans cette fissure, dans cette fragilité du Parti républicain. Donc Trump n'est pas à l'origine des difficultés du Parti républicain, mais il en a profité. Et donc aujourd'hui, je crois que le Parti républicain a envie de reprendre un peu le contrôle de son propre parti, et peut-être a envie de voir Donald Trump quitter la scène, ou en tout cas ne pas être dans des conditions de se présenter pour un deuxième mandat.
Alors on a beaucoup parlé des républicains, on va peut-être parler un petit peu des démocrates, si vous voulez bien maintenant. Il y avait des hésitations, des divisions au moment de lancer cette enquête, ça a duré pendant toute l'enquête russe d'ailleurs. Jérémy Guez, est-ce que ces divisions, ces hésitations sont oubliées ? Est-ce que tout le monde est comme un seul homme derrière ?
Alors oubliées certainement pas, puisqu'en fait la principale raison de ces hésitations telles qu'elles avaient été exprimées d'ailleurs par le chef de file des démocrates à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, c'était de dire en lançant finalement l'impeachment, on risque de rallier tous les républicains autour de Donald Trump et ça risque de nous poser des problèmes pour 2020. Cette hésitation, à mon avis, elle est tout à fait vraie. Ce qui est différent, et ça c'est une question effectivement qui est très importante, pourquoi est-ce que l'élan a eu lieu avec cette crise ou ce scandale ukrainien plutôt qu'avec l'affaire russe ? À mon avis, c'est parce que l'affaire russe, quand on essaye d'y prêter attention, elle était extrêmement complexe. Ça a donné lieu à un rapport de 448 pages. Les démocrates ont essayé de mettre le procureur spécial Robert Mueller sur toutes les télés. Bref, c'était soporifique et ils n'ont jamais réussi à créer un récit de ce qui s'était passé. Tandis qu'avec l'affaire ukrainienne, finalement, c'est simple, avec toutes les guillemets du monde, mais on accuse le président d'avoir mis ses intérêts politiques propres avant les intérêts des États-Unis et d'avoir utilisé des outils diplomatiques traditionnels pour pouvoir faire pression sur l'allié ukrainien. Là, le récit, je pense, est très clair et donc les démocrates se disent, malgré toutes les hésitations qui sont encore là par rapport à la capacité de Donald Trump de rallier ses troupes autour de sa personne, là, le récit, il est beaucoup plus simple à expliquer à l'opinion publique et c'est peut-être ça qui fait que l'élan autour de l'impeachment est beaucoup plus important cette fois-ci que pendant l'affaire russe.
Alors, le but de Donald Trump, c'est de déstabiliser son rival Joe Biden hein, en l'accusant, lui et sa famille, son fils en l'occurrence, de corruption. Celui des démocrates, c'est de pointer du doigt l'action du président, comme vous l'expliquiez à l'instant, Jérémy Guez. Quel est le récit qui s'impose, s'il y en a un ? Parce qu'on sait que quand on a réussi à imposer le récit et le tempo de la campagne, on a déjà fait la moitié du travail, Christine Zumel.
Alors, je crois que ce qui est en train de se passer, ça va peut-être changer l'ordre des favoris du côté démocrate. C'est-à-dire que pour l'instant, évidemment, on a une sorte de, j'exagère un peu, mais une sorte de clone de Donald Trump, qui est Joe Biden, c'est-à-dire un homme blanc.
De plus de 70 ans,
voilà. Et donc, qui mène...
Populiste, lui aussi.
Populiste aussi, d'une certaine manière. Mais qui a quand même été le vice-président d'Obama, donc un président relativement progressiste. Donc, quand même, dans une lignée qui est opposée à celle de Trump. Et peut-être que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ça va, si Donald Trump est effectivement attaqué, ça donne la possibilité aux démocrates de pouvoir mettre en avant des candidats qui sont autres que Joe Biden. Voilà. Et donc, à voir.
Est-ce qu'il y a la crainte que cela efface, que cette affaire, hein, cette procédure et l'affaire ukrainienne efface complètement la campagne pour la primaire des démocrates, qu'on ne parle plus que de cela et pas des propositions de chacun, Jérémy Guez. Parce qu'il y a quand même des propositions très différentes selon les candidats à la primaire démocrate.
Oui, c'est un risque et je ne veux pas être une mauvaise langue, mais peut-être que ça les arrange beaucoup, les démocrates. Parce que aujourd'hui, quitte à avoir un constat sévère sur ce qu'est devenu le Parti démocrate aujourd'hui, ça m'est encore assez difficile de comprendre finalement quelle est vraiment l'alternative à Donald Trump, outre cette affirmation « je ne suis pas Donald Trump ». Et si c'est que ça, finalement, le programme politique aujourd'hui des démocrates, ça risque de poser un certain nombre de problèmes aux démocrates, parce que même si Donald Trump était battu en 2020, toute la colère, toute la désillusion avec le système démocratique et avec l'establishment qui l'a mené au pouvoir, cette colère ne va pas disparaître du jour au lendemain.
Assécher le marais, c'était son idée, voilà.
Oui. Et cette idéologie-là, en tout cas cette méfiance vis-à-vis du pouvoir, les démocrates vont essayer de la cultiver. Ils ont parié sur Joe Biden, je disais populiste tout à l'heure, parce qu'il faut voir Joe Biden en campagne. C'est quelqu'un qui adore cela, il serre les mains, il arrive à parler à des gens mais tellement différents. Mais le problème, c'est que là aussi, c'est quoi l'Amérique d'aujourd'hui ? Juste un dernier mot, cette tendance de désengagement, toute la crise qui a lieu aujourd'hui en Turquie et en Syrie. Il y a un certain nombre d'analystes qui disent à juste titre, Obama n'avait pas mieux fait en Syrie. Donc on aurait tort aussi d'opposer ces deux partis quand il y a une espèce de ligne directrice en matière de politique étrangère.
Est-ce que, je vous repose la question à vous, Christine Jumello, est-ce que cette affaire va effacer la campagne interne aux démocrates?
C'est pas certain, parce que ce qui commence là en janvier, enfin en février, c'est la campagne des primaires. C'est pas vraiment la campagne présidentielle encore. Et la campagne des primaires, c'est toujours une campagne au sein des partis. Il y a la partie donc la primaire démocrate, et les candidats démocrates, en gros, se battent entre eux. Et donc là, la question qui se pose pour les républicains, c'est est-ce que Trump va être notre candidat ? Donc là, c'est vraiment la grande question brûlante d'aujourd'hui. Et côté démocrate, suivant le candidat républicain, évidemment, ça change la donne chez eux.
Alors, est-ce qu'il est possible ? Parce que ça a l'air complètement ahurissant, en fait, quand on suit l'actualité américaine depuis des mois et quelques années, depuis l'élection de Donald Trump. Est-ce qu'il est possible, là, au moment où on parle, qu'un autre candidat républicain vienne gêner Donald Trump?
Je crois que c'est vraiment absolument possible. Donc là, il faut suivre vraiment au jour le jour l'avancée de la destitution. S'il est vraiment mis en difficulté, on va voir ce que décide la Chambre, si ça va au Sénat, si ça va jusqu'au Sénat. Peut-être sera-t-il en effet destitué. Donc là, évidemment, il ne pourra pas être candidat. Mais peut-être aussi qu'il sera suffisamment affaibli pour qu'un certain nombre d'autres candidats républicains se sentent capables de se lancer dans la course.
Jérémy Guez, là-dessus, est-ce qu'il peut y avoir un candidat sorti de nulle part qui va doubler Donald Trump d'ici au mois de novembre 2020?
En tout cas, aux primaires, il y en a quelques-uns qui se sont déclarés. Mmh. Historiquement, c'est intéressant qu'à chaque fois qu'un président sortant à chaque fois qu'il a fait face à un challenger lors des primaires, il a toujours perdu. C'était le cas de Carter en 1980. C'était le cas de Gerald Ford en 1976. S'il est destitué, alors tout le problème va être le timing, mais il ne faut pas exclure non plus qu'il peut être destitué, qu'il peut se représenter pour 2020 et qu'il peut surfer sur cette même colère pour se faire réélire. Ce n'est pas impossible.
Ce soir, il y a un débat entre, ça sera une perspective intéressante, entre une douzaine de candidats démocrates. Est-ce qu'on va parler d'autre chose que de Donald Trump, Christine Jumello?
Alors oui, parce qu'en fait, il y a une série de questions qui sont un petit peu de grands sujets, de grands thèmes qui reviennent à chaque fois et qui vont être évoqués.
Protection sociale, par exemple.
Voilà, protection sociale, par exemple. Et puis aussi, c'est le but de ce débat démocrate, c'est d'essayer de départager un petit peu les candidats démocrates. C'est difficile pour certains d'entre eux. Et puis aussi, pour eux, de pouvoir arriver à la première primaire en février avec des caractéristiques suffisamment importantes pour qu'ils puissent gagner. Je crois que tout se joue dans les premières primaires en février, Iowa, New Hampshire, qui sont vraiment en général Trump avait gagné par exemple la primaire du New Hampshire et il est devenu président.
Merci Christine Jumello, merci Jérémy Guez d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui Fabrice Violet. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles. facebook.com/ RFI Pure Radio dans la rubrique émissions. Vous pouvez aussi participer au débat sur les réseaux sociaux. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.